Welcome to the Voice of America in French.
Bienvenue. La Voix de l'Amérique, service francophone vers l'Afrique.
Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30 PU et tous les soirs à 18h30 PU.
Et sur Internet à www.lavoixdelamérique.com.
Bonsoir à tous et à toutes. Au micro, Idrissa Sédoudia pour ce premier bulletin d'information de la soirée. Le premier ministre du Lesotho s'est réfugié en Afrique du Sud pour échapper à ce qu'il a appelé une tentative de coup d'État dans ce petit royaume d'Afrique australe. Des témoins disent avoir entendu des tirs aujourd'hui à Maseru et vu des soldats en patrouille dans les rues de la capitale occuper des bâtiments gouvernementaux et encercler la résidence officielle du Premier ministre Thomas Tabane. Selon lui, les actes de l'armée équivalent à un putsch. Il a dit avoir fui vers l'Afrique du Sud après avoir été informé qu'il était la cible d'un complot des militaires pour l'assassiner. Dans une interview à La Voix de l'Amérique, le Premier ministre a promis de retourner au Lesotho dès qu'il se sentira en sécurité. Il a dénoncé, et je cite, « une indiscipline totale au sein de l'armée » et blâmé un officier supérieur qui l'a limogé. Il s'est dit aussi victime de sa décision de s'en prendre à un membre éminent du gouvernement qu'il accuse de corruption. L'armée dément avoir tenté un coup d'État, disant que son opération ne visait qu'à désarmer des éléments de la police soupçonnés de vouloir armer une faction politique. L'armée assure qu'elle a regagné ses casernes et que la situation est revenue à la normale. En Somalie, les forces gouvernementales appuyées par les troupes de l'Union africaine ont repris Boulomarer dans le sud-ouest du pays et plusieurs villages voisins dans le cadre de leur offensive contre Al-Shabaab dans la région de Basse-Chabelle. Dans une interview à La Voix de l'Amérique, le gouverneur local, Abdikadir Mohamed Nour, a dit que les troupes gouvernementales ont eu raison des militants liés à Al-Qaïda et repris la ville aujourd'hui. Selon lui, 11 combattants Shabab ont été tués et 2 soldats blessés dans cette opération appelée Océan Indien qui avait commencé la nuit dernière. On ne sait pas s'il y a des victimes parmi la population civile, mais des témoins disent que des habitants ont fui le secteur. Les forces alliées se dirigent maintenant vers la ville portuaire de Baraoué, un bastion d'Al-Shabaab. L'épidémie d'Ebola a maintenant atteint le Sénégal où un étudiant guinéen qui avait eu des contacts avec des patients dans son pays a cherché à se faire soigner dans un hôpital de Dakar, la capitale. Il a été placé en quarantaine, a annoncé la ministre de la Santé, Awa Marie Kolsek.
La personne a été aussitôt mise en quarantaine et bénéficie d'une prise en charge appropriée. Il a aussi été procédé à des prélèvements afin d'analyse pour la détection du virus Ebola. Les résultats des tests effectués à l'Institut Pasteur de Dakar se sont avérés positifs. À ce jour, l'état de santé du patient est satisfaisant.
Le Sénégal devient ainsi le 5e pays à être lié à l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 1500 morts cette année, la plupart en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Ici aux États-Unis, les instituts nationaux de la santé ont annoncé pour la semaine prochaine le début de tests d'un vaccin contre le virus sur des êtres humains. L'épidémie pourrait bien s'envenimer, avertit-on. Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a mis en garde aujourd'hui contre un point de non-retour dans la crise en Ukraine. Le président de ce pays, Petro Poroshenko, discute à Bruxelles de ce conflit avec les leaders de l'Union européenne. En Irak, un kamikaze visant des éléments de l'armée a fait au moins 11 morts, dont 4 soldats, en point de contrôle de Yousifia, une localité située à 20 km au sud de Bagdad, la capitale. Il y a au moins 24 blessés.
Washington, la voix de l'Amérique. Tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel. Et les matins du lundi au vendredi, à partir de 5h30, TU.
Washington, la Voix de l'Amérique, Camille Grosdidier avec vous pour cette édition de Carrefour Sciences et Santé, un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord, Ebola, l'Organisation mondiale de la santé, explique pourquoi l'épidémie qui frappe l'Afrique de l'Ouest a été largement sous-estimée.
Eh bien, explique l'OMS, beaucoup de familles cachent des proches infectés dans leur maison. Comme aucun remède n'existe pour le virus à Ebola, les familles des malades estiment qu'ils seront mieux chez eux pour mourir.
Michel Joseph nous offrira des précisions. 8 ans après la catastrophe écologique provoquée à Abidjan par le déversement des déchets toxiques du cargo Probo Koala, l'ONG Amnesty International évoque les séquelles du désastre.
Les témoignages que nous avons nous laissent entendre que les personnes qui ont été touchées par cette pollution, ces déchets toxiques, ont très peu d'informations finalement sur les conséquences sanitaires et sur l'ampleur en fait des répercussions sur leur santé.
Des détails avec Yves Prigent d'Amnesty International. Et Jacques Aristide dira comment et pourquoi l'agence spatiale américaine a capturé de la poussière d'étoiles. L'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola suscitant de nombreuses craintes et questions en Afrique de l'Ouest et ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a publié vendredi une mise au point. Michel Joseph.
Eh bien, tout d'abord, le public se demande pourquoi l'ampleur de l'épidémie d'Ebola, notamment au Liberia et en Sierra Leone, a été sous-estimée. Eh bien, explique l'OMS, beaucoup de familles cachent des proches infectés dans leur maison. Comme aucun remède n'existe pour le virus à Ebola, les familles des malades estiment qu'ils seront mieux chez eux pour mourir. D'autres parents nient que les malades souffrent du virus à Ebola et sont convaincus que les salles d'isolement, considérées comme des sites d'incubation de la maladie, vont au contraire empirer l'état du malade et conduire à une mort certaine. Par ailleurs, les familles redoutent la stigmatisation et le rejet social qui s'ensuit lorsqu'un diagnostic d'Ebola est confirmé. Les épidémies de virus à Ebola se déplacent rapidement, créant des défis pour les partenaires internationaux. Réagir nécessite des quantités de personnel, d'équipements et de matériel, dont les combinaisons nécessaires pour protéger le personnel soignant, les masques et les gants. Très rapidement, les services de santé publique sont débordés, on manque de tout. Beaucoup de centres de traitement et de cliniques ont fermé. La peur empêche les patients de s'y présenter et elle pousse le personnel médical à fuir. Les familles cachent leurs morts. Dans certains cas, les épidémiologistes ont parcouru des villages et compté le nombre de tombes fraîches pour se faire une idée des cas suspects. Dans certaines régions du Libéria, un phénomène inédit se produit. Dès qu'une nouvelle installation de traitement est ouverte, elle est immédiatement remplie de patients dont beaucoup n'avaient pas été identifiés auparavant. Ce phénomène révèle les carences des systèmes officiels de surveillance. Par exemple, à Monrovia, la capitale, un centre de traitement d'Ebola doté de 20 lits qui a ouvert la semaine dernière a été immédiatement pris d'assaut par plus de 70 patients.
Washington, la Voix de l'Amérique, Camille Grosdidier avec vous. Toujours concernant la fièvre hémorragique à virus Ebola, la souche Zaïre du virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest depuis plusieurs mois peut tuer jusqu'à 90% des patients, rappelait récemment le docteur Bart Jensen, directeur des opérations de l'ONG Médecins sans frontières. Pour rappel, la fièvre à virus Ebola est hautement contagieuse si l'on entre en contact avec les fluides des malades, sueur, saignement, sel, etc. Donc, il est conseillé aux familles de ne pas toucher les malades ou les morts présumés de l'Ebola, mais de faire appel au personnel spécialisé qui saura comment se protéger contre la contagion. On écoute le docteur Jensen.
Il est très important que dans toutes les communautés affectées par l'épidémie, les messages doivent être bien transmis. Il est très important que chaque personne malade dans cette zone vienne se faire diagnostiquer rapidement pour être prise en charge rapidement. Et de l'autre côté, que certaines pratiques dangereuses pour la transmission, comme le contact direct avec les malades ou les personnes décédées, doit être limité au maximum.
Bien sûr, ce sont des cultures où les rites funéraires sont extrêmement importants. Les familles traditionnellement lavent le corps de la personne défunte avant de procéder à l'enterrement. Mais cette fois-ci, est-ce qu'il ne faut pas plutôt faire appel aux services sanitaires pour qu'ils disposent de la dépouille du défunt?
Tout à fait. Et cela est le cas dans chaque partie du monde où une épidémie Ebola sera déclarée. La prise en charge ou la gestion des corps des personnes décédées doit être faite d'une manière extrêmement prudente pour éviter toute nouvelle transmission de la maladie vers d'autres.
Le docteur Bart Jensen, directeur des opérations de Médecins sans frontières. Washington, la Voix de l'Amérique, Camille Grodidi avec vous. Vous suivez le magazine hebdomadaire Carrefour Science et Santé. En Guinée, de nouveaux cas probables de décès dus au virus à Ebola ont été enregistrés cette semaine à Kérouané, dans le nord-est du pays, tandis qu'à Conakry, la capitale, la situation semblait relativement stable. Le point avec Zakaria Camara, notre correspondant en Guinée.
Une enquête réalisée par le Centre communautaire pour le développement de l'éducation, CECOD, révèle qu'il y a encore des résistances à la lutte contre Ebola. Selon les enquêteurs, 24% des personnes interrogées ne croient pas que Ebola existe en Guinée et 4% restent dubitatifs. Malik Ba, président du CECOD.
Les résultats du sondage ont montré que, avec tout ce qui est fait en matière de sensibilisation, il y a encore des résistances. Il y a encore des obstacles pour y meurtre. Communication. Pour qu'une communication soit efficace, il faut que les a priori, les préjugés des citoyens soient pris en compte.
Le sondage a été réalisé à Conakry. Le ministre guinéen de la Santé salue l'initiative et souhaite que les enquêteurs aillent dans les autres localités du pays. Dr Rémi Lama compte sur le CECOD pour enrichir la communication vers les populations.
J'avoue, jusqu'ici, il y a certains qui n'y croient pas. Donc on a besoin d'une telle enquête pour voir exactement quel type de message il leur faut pour qu'ils puissent vraiment accepter, collaborer avec les services de santé, accepter de se faire prendre en charge, car aujourd'hui, comme nous l'avons toujours dit, le premier remède, c'est la prévention. Le premier remède, c'est la détection précoce des cas afin d'une prise en charge efficace. Comme nous l'avons toujours dit, plus tôt on est reçu dans les salles de traitement, mieux ça vaut.
Le président Alpha Condé a déclaré il y a quelques jours l'état d'urgence sanitaire national pour lutter efficacement contre Ebola. Maintenant, l'heure est à la participation de tous, a souligné Dr Sakoba Keïta, chef de la division prévention et lutte contre la maladie.
Tout le monde doit agir pour qu'on puisse mieux contrôler cette maladie dans notre pays. Donc en dehors de ça, il y a des mesures contraignantes qui sont contenues dans l'urgence sanitaire que vous devez nous aider afin que la population les accepte. Cette première grande mesure, c'est l'empêchement des contacts de se déplacer hors de leur localité pour ne pas exporter la maladie. Une deuxième composante, c'est que vous devez nous aider pour que toute personne venant du Libéria ou de la Sierra Leone soit notifiée au service de santé.
Depuis janvier, la Guinée a enregistré 523 cas, dont 380 décès et 18, c'est le nombre de personnes malades dans les centres de traitement. Conakry, Zakaria Camara pour la Voix de l'Amérique.
Washington, vous suivez Carrefour Science et Santé en compagnie de Camille Grosdidier. Un nouveau traitement permet de protéger les singes contre le virus de Marburg, proche de celui d'Ebola. Jean-Roger Bion.
Des essais cliniques sont d'ailleurs en cours sur un traitement similaire contre le virus d'Ebola, mais en ce qui concerne le virus de Marburg, une étude menée par des chercheurs de l'Université du Texas à Galveston et par la société pharmaceutique Tecmira Pharmaceutical est la première à s'être penchée sur l'efficacité du médicament après l'apparition des symptômes de Marburg. Les chercheurs ont constaté que le composé mis au point avait permis de guérir 16 macaques rhésus infectés par le virus de Marburg. De surcroît, il était possible de traiter les sujets jusqu'à 3 jours après l'infection, quand le virus est détectable par test et qu'apparaissent les premiers symptômes. Selon Thomas Gersberg, professeur de microbiologie à l'Université du Texas, qui a dirigé l'étude, ce composé de gènes de l'ADN du virus entrave sa reproduction dans le corps. Le médicament protège contre un certain nombre de différentes souches du virus de Marburg, mais ne pourrait pas arrêter le virus d'Ebola. Cependant, a poursuivi le professeur Gersberg, des essais cliniques ont commencé pour mettre à l'épreuve un autre composé capable, lui, de bloquer le virus d'Ebola.
Washington, la Voix de l'Amérique, au micro Camille Gros-Didier pour Carrefour Science et Santé. Des dizaines d'Ivoiriens ont confié à l'ONG Amnesty International qu'ils redoutent les conséquences à long terme que pourraient avoir sur leur santé les déchets toxiques déversés à Abidjan il y a de cela 8 ans par la compagnie de courtage pétrolier Trafigura. Rappelons que le cargo Probo Koala, affrété à l'époque par Trafigura, avait dispersé près de 600 tonnes de déchets toxiques à travers la capitale économique ivoirienne avec des complicités locales. Il s'agissait apparemment d'un mélange de pétrole, sulfure d'hydrogène, phénol, soude caustique et composés organiques sulfurés. Répandus à terre, ils ont provoqué des émanations de gaz mortels qui auraient provoqué la mort de 17 personnes et l'intoxication de dizaines de milliers d'autres. Une décontamination considérable a été nécessaire. Des chercheurs d'Amnesty International ont récemment recueilli des témoignages auprès des habitants d'Akwedo, où une partie des déchets ont été déchargés illégalement. On écoute Yves Prigent, responsable à Amnesty International France.
Le constat qui a été effectué par la mission menée par Amnesty International sur le terrain à Abidjan est que 8 ans après, on a toujours peu d'informations sur ce qui s'est réellement passé et surtout, les témoignages que nous avons nous laissent entendre que les personnes qui ont été touchées par cette pollution, ces déchets toxiques, ont très peu d'informations finalement sur les conséquences sanitaires et sur l'ampleur en fait des répercussions sur leur santé et celle de leurs proches et des gens qui habitaient dans le voisinage de ces zones.
Amnesty International a quand même appris que les enfants de ce secteur connaissent des problèmes respiratoires.
Tout à fait. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que nous demandons aux autorités ivoiriennes de mener un audit complet sur les questions sanitaires parce que des choses ont été identifiées au moment de la catastrophe. Néanmoins, il n'y a pas eu de suivi sur la durée et bien entendu, au cours de ces 8 ans, des enfants sont nés et lesquels sont maintenant, pour certains, affectés par les émanations de déchets toxiques qui continuent à se produire. Donc les conséquences sont très lourdes et 8 ans après, les choses continuent à se produire et à s'aggraver.
Le programme de l'environnement des Nations Unies doit mener une étude d'ici à la fin de l'année sur l'impact environnemental de ce déchargement de produits toxiques.
Tout à fait. Ça, c'est quelque chose de très positif, de très intéressant. Ça permettra d'avoir une évaluation fiable, puisque ça sera mené par les Nations Unies, donc fiable et objective, sur le nombre de sites qui sont concernés, l'ampleur des dégâts. Ce sont des choses dont on ne dispose pas pour l'instant. Mais surtout, nous, Amnesty International, nous souhaitons saisir cette occasion-là, l'occasion à la fois de la mission des Nations Unies et puis du rapport qui sortira ensuite, pour rappeler au gouvernement ivoirien qu'il est important de diffuser ces informations-là au plus grand nombre, et en particulier aux personnes qui habitent dans ces zones-là, pour ensuite pouvoir travailler sur des programmes de dépollution, de décontamination, et puis de suivi sanitaire des cas les plus urgents.
L'homme d'affaires israélien Mark Rich, qui contrôlait Trafigura, est décédé cette année. Est-ce qu'il y a le moindre espoir que la société va être un peu plus transparente au sujet de ce qui s'est passé à Abidjan?
Ça, c'est assez difficile de le dire. Enfin, ça appartient c'est entre les mains des dirigeants de ces sociétés-là. Nous, ce que l'on dit par rapport à cette situation-là, ce que l'on a dit dans un rapport publié en 2012, qui s'intitule « Une vérité toxique », c'est que dans ce dossier-là, il y a énormément de responsabilités qui ne sont pas seulement celles de l'entreprise Trafigura. Tout cela, ça a été rendu possible parce que dans la législation de tous les pays qui sont impliqués dans cette affaire, il y a tellement de vide et de flou juridique que finalement, il est possible qu'un bateau, le Probo Koala en l'occurrence, puisse traverser le monde entier pour ensuite finir pour déverser son chargement dans une ville comme Abidjan, sans que personne ne puisse l'empêcher. Et c'est ça ce qui reste encore très préoccupant, puisque actuellement, il n'y a toujours pas de mise en place de système, de législation dans les différents pays concernés pour empêcher cela de se reproduire à nouveau.
On écoutait Yves Prigent, responsable à Amnesty International France. Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute de Carrefour Sciences et Santé. Au micro, Camille Grosdidier. En 2010, affirme l'Organisation mondiale de la santé, les accidents de la route ont entraîné 1,2 million de décès dans le monde, un chiffre voisin de celui enregistré en 2007. Pour réduire la mortalité sur les routes, il est essentiel de s'assurer que le plus d'États membres possible adoptent des législations, ajoute l'OMS. Un appel entendu par le gouvernement béninois qui, par une décision prise en Conseil des ministres, vient d'instaurer la boîte pharmaceutique pour les engins à deux roues. Mais voilà, la mesure est loin de faire l'unanimité chez les motocyclistes qui estiment que l'État va trop loin. On écoute un reportage de Peggy Ludovic Dagba.
Le gouvernement béninois, toujours à la trousse des propriétaires d'engins à deux roues. Pour garantir leur sécurité, l'État béninois vient de décider de l'instauration d'une trousse pharmaceutique de secours pour tous les engins à deux ou à trois roues, dont le contenu a été signé par arrêté signé de quatre ministres. Les ministres de l'Intérieur, de la Défense, de la Santé et des Transports. Il n'en fallait pas plus pour faire dire à certains béninois que le gouvernement use de tous les subterfuges pour éliminer les motocyclistes de la circulation au Bénin. Écoutons quelques-uns d'entre eux, rencontrés à Cotonou, se prononcer sur la pertinence de la mesure.
Nous ne savons pas qu'est-ce que ce gouvernement nous veut. Ils ont parlé de pistes cyclables. On est rentré dans les pistes cyclables. Nous ont parlé des casques. On a pris les casques. Ils ont parlé d'assurance. Ils ont parlé d'immatriculation. On n'a même pas encore fini. Maintenant, on vient nous parler de trousses. Qu'est-ce qu'on va faire avec les trousses? Nous ne sommes pas des chirurgiens ou des infirmiers. Si ce gouvernement veut plus qu'on conduise les motos dans ce pays, qu'ils nous disent qu'on aille garer nos motos et marcher à pied pour aller au service. Malheureusement, même, il n'y a pas de trottoir pour piétons.
Où est-ce qu'on va poser cette boîte à pharmacie? Même si on prend les motos mat, par exemple, là, on va poser ça où? Même les scooters, quelle est la place qu'il y a? Parlant du contenu des boîtes à pharmacie, on a parlé de bistouri, de ciseaux. Si au cours d'un échauffouré ou bien, par exemple, des fois on voit dans la circulation, les gens se cognent et en viennent aux mains, les gens peuvent prendre ça pour se blesser. D'autre part, on n'a pas encore fini avec la période des casques. Le Béninois que nous sommes n'arrive pas à s'offrir un seul repas par jour. Il y a des gens qui n'ont même pas 100 francs pour se payer même le petit pâté pour calmer leur faim. On n'a pas fini avec la période des casques. Bientôt, ça serait la période des plaques. On n'a pas fini avec ça. Maintenant, on vient avec l'histoire des boîtes à pharmacie. Les quatre n'ont qu'à revoir leur position.
C'est une prière que nous fassions que chaque fois nous tombons sur la voie pour que nous puissions utiliser ces boîtes à pharmacie-là ou quoi. Bon, moi, je ne sais pas. Pour moi, bon, c'est une décision à revoir.
Peggy Ludovic Dagba, Cotonou pour la Voix de l'Amérique.
Vous suivez Carrefour Sciences et Santé, un programme de la Voix de l'Amérique. Des études ont observé que les personnes âgées qui consomment du cacao régulièrement ont une tension artérielle plus basse et 50% moins de risque de décéder d'un problème cardiovasculaire. Encore faut-il qu'il s'agisse de chocolat noir. Nathalie Barge.
Les bienfaits du cacao sont attribués à certains de ses composés naturels tels que les flavonoïdes qui sont de la famille des antioxydants. Chez les animaux, les polyphénols des plantes tels que ceux qu'on retrouve dans le cacao et le chocolat noir diminuent la tension artérielle et améliorent la santé cardiaque. Chez l'homme, les effets semblent également bénéfiques. Selon la diététicienne Kim Hoffman, le chocolat aurait le pouvoir de soulager la mélancolie.
It contains phenethylamines.
Le cacao contient des phényléthylamines, dit-elle, qui dans le cerveau joue le rôle de neurotransmetteur et améliore l'humeur, ce qui renforce également les endorphines dans le sang, les hormones du bonheur, celles qui font leur apparition quand on se sent très bien, explique Madame Hoffman. À noter que tous les chocolats n'ont pas les mêmes propriétés. Certains chercheurs font valoir que la fabrication du chocolat, qui implique des températures pouvant atteindre 130 degrés, peuvent compromettre les atouts du cacao. C'est pourquoi Anthony Grid, artisan chocolatier chez Honest Chocolate à Cape Town en Afrique du Sud, ne chauffe pas son chocolat au-dessus de 42 degrés Celsius.
There's a movement to...
Il y a un mouvement en faveur d'un minimum de cuisson ou réchauffement de l'aliment juste assez pour conserver les antioxydants naturels ou autres minéraux. Le cacao en fait partie, vous pouvez le garder cru avec un grain de très bonne qualité, explique Anthony Grid. Pour réduire le goût amer du cacao, les chocolatiers lui enlèvent ses polyphénols, les antioxydants qu'il lui donne, et ajoutent du sucre. Justement, font valoir les experts, le sucre est nocif et donc il n'est pas avisé de consommer du chocolat quotidiennement, selon eux. Les amateurs rétorquent bien sûr qu'il ne faut abuser de rien, mais qu'un petit bout de chocolat noir chaque jour pour se remonter le moral, eh bien, ça ne fait de mal à personne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous suivez Carrefour Science et Santé. Camille Grosdidier avec vous. République démocratique du Congo, l'Institut congolais pour la conservation de la nature et les communautés riveraines du domaine de chasse de Rutshuru dans le Nord Kivu ont récemment lancé des travaux de démarcation entre les exploitations agricoles et le domaine protégé du parc national des Virunga. Éventuellement, une clôture électrique sera érigée avec comme double objectif d'empêcher les éléphants d'envahir les cultures des exploitants agricoles d'une part et d'autre part d'empêcher ces mêmes exploitants agricoles de continuer à envahir le domaine du parc national des Virunga. Le point depuis Goma avec notre correspondant Primo Pascal Rudaigua.
Cette initiative vise surtout à protéger les animaux et la concession du parc des Virunga, envahi depuis plusieurs années par les populations riveraines. Ephrem Balole est chargé des projets de développement au parc national des Virunga.
Nous voulons que la faune ne puisse plus être détruite, parce que dans la zone de Kaunga, on a perdu plus de 12 éléphants les 5 dernières années. C'est énorme. Parce que le parc national de Virunga n'a plus beaucoup d'éléphants. Et donc, nous attendons une certaine franche collaboration avec la population de façon que ça puisse aider à bien conserver le parc de Virunga. Et cela pourra permettre de pouvoir sauvegarder la faune, notamment les éléphants, les buffles et les antilopes qui fréquentent la zone de conservation intégrale que nous sommes en train de zoner pour le moment.
Le représentant de la population locale, Modeste Kabori, confirme qu'intérêt d'entente a été trouvé entre la population et l'Institut national de conservation de la nature. Un comité de dialogue sera constitué entre le parc et la chefferie de Bouisha pour éviter le malentendu dans l'avenir.
Nous nous sommes convenus avec l'ICCN. Nous allons créer un comité de dialogue entre le parc et la chefferie. Les associations qui auront les champs à la limite du parc seront des membres de ce comité de dialogue. Nous allons poursuivre avec les sensibilisations.
Ephrem Balole insiste sur le respect des accords, sinon les récalcitrants seront arrêtés et transmis à la justice.
Nous ne voudrions pas que, après avoir fait ce travail, on retrouve encore du jour au lendemain les gens en train de cultiver dans le parc. Les conservateurs qui sont à côté de moi seront tout à fait sévères vis-à-vis de ça.
Quelques organisations régionales et locales ont contribué à décanter le conflit qui existait entre le parc national de Virunga et la population riveraine. Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigua pour La Voix de l'Amérique.
Ici Washington, et pour finir cette édition de Carrefour Science et Santé de La Voix de l'Amérique, eh bien, cette particule microscopique recueillie par le chasseur de comètes Stardust semble être parvenue des confins de l'espace et non pas de notre système solaire. Jacques Aristide.
Voilà une nouvelle qui nous met les étoiles plein les yeux. Eh bien, des tests supplémentaires seront nécessaires avant qu'on puisse dire définitivement si les 7 particules de poussière proviennent vraiment de l'extérieur du système solaire. Mais les scientifiques de l'agence spatiale américaine, la NASA, sont optimistes. Il pourrait s'agir du tout premier échantillonnage jamais recueilli de poussière interstellaire. Ils ont publié leurs travaux dans la revue Science. La NASA avait lancé la sonde Stardust en 1999 pour recueillir des débris de la comète Wild-2. Ces capteurs de poussière ont été exposés aux flux de poussière interstellaire dans les années 2000 avant de parachuter sur la Terre en 2006. Depuis lors, explique le physicien Andrew Westphal de l'Université de Californie à Berkeley, des dizaines de scientifiques du monde entier analysent les capteurs. L'équipe a été aidée par au moins 30 000 citoyens scientifiques qui ont examiné plus d'un million d'images dans le cadre d'un projet de science participative en ligne.
Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de La Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier qui vous remercie de l'avoir suivie.